Vous êtes sur RTL.
D'entreprise depuis plus de 50 ans. Les déménageurs bretons, la confiance a un nom.
Vous écoutez RTL, il est 18h. RTL Sport démarre avec vous, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Bienvenue, nous sommes ensemble pour 2 heures d'infos et à la une, 30 ans après, le souvenir des anciens joueurs de Bastia et de l'OM foulent en ce moment même la pelouse de Furiani, match de l'émotion 30 ans après la catastrophe. C'était le 5 mai 1992. 18 morts, plus de 2000 blessés parmi les victimes. Jean-Baptiste Dumas, journaliste ici à RTL, son fils Bastien sera notre invité de 18h15 et nous nous rendrons d'ailleurs en Corse dès le début de votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Plus 64% des installations de panneaux solaires de plus en plus nombreuses. Enquête RTL dans ce journal. Avec la guerre, les prix de l'énergie flambent et les Français cherchent en nombre des alternatives. Dans ce journal aussi, l'Union PS Insoumis, sur quelle base? On va éplucher les termes de leur accord trouvé cet après-midi. Et puis la comparution aujourd'hui de l'ancienne infirmière accusée d'avoir agressé un pompier dimanche en marge de la manifestation du 1er mai à Paris. Les courses dans le Quintet Plus à Longchamp, il fallait jouer le 8, le 15, le 3, le 2 et le 4.
Dans un quart d'heure, la Brigade RTL s'interroge. Les voitures électriques polluent-elles autant que les voitures normales? Un rapport interpelle. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et la fine équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, président cherche Premier ministre désespérément. Très bonne situation, pas si sûr. Jean-Pierre Raffarin va nous conter l'enfer de Matignon vu de l'intérieur. Au menu également, les derniers tops de l'horloge parlante et l'un des garages auto les moins chers de France.
À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et ses polémistes. Et puis on va s'intéresser au temps de manière régulière tout au long de l'émission avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance météo pour demain.
Encore mitigée demain avec des averses du sud-ouest au nord-est.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
30 ans après, donc, le match du souvenir au stade Furiani à Bastia.
En mémoire des 18 personnes mortes ce 5 mai 92 dans l'effondrement d'une tribune temporaire lors de la demi-finale de la Coupe de France entre Bastia et l'OM. Les joueurs bastiais de l'époque retrouvent le terrain ce soir pour une rencontre hommage contre un collectif d'anciens joueurs.
Bonsoir Nicolas Georgerot.
Bonsoir.
Vous êtes à Furiani pour RTL où le coup d'envoi vient d'être donné pour conclure cette journée de commémoration.
Oui, des retrouvailles pour ces joueurs présents sur cette pelouse il y a 30 ans. C'est la première fois qu'un tel match du souvenir se déroule lors des commémorations. Antoine Di Fraya était le capitaine du Sporting de Bastia lors de cette demi-finale de Coupe de France.
Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de joie de se retrouver, mais il y a beaucoup d'émotions. Chacun a son histoire, chacun a sa vie. Mais quand on vit ce genre de drame, quand on se revoit, il y a quelque chose de fort qui s'est créé en nous et qui partira jamais.
Les anciens de 92 ont déposé une gerbe à la stèle ce matin. Discours, hommage, minute de silence. Un peu plus tôt, un tournoi avec de jeunes footballeurs comme Pierre-Marie réunissait les clubs de la région.
On est déjà Armentiers, c'est une grande chance de jouer sur ce terrain. Du coup, c'est bien d'être réunis tous ensemble. Voilà.
Son père, Sébastien, l'accompagne. Il est tombé à Furiani ce soir-là. Il avait 14 ans à l'époque.
La transmission est très importante, justement. Il faut qu'ils connaissent l'histoire, il faut s'imprégner de tout ça pour les enfants, qu'ils puissent justement s'en servir et puis comprendre un petit peu que dans la vie, eh ben, il y a des choses qui se passent des fois aussi parce qu'il faut tout connaître, il faut connaître toute l'histoire. Ils ne sont pas très belles. Il faut continuer comme ça. Tous les ans.
Quelques sourires, un peu de légèreté aujourd'hui, avant la solennité, le recueillement demain.
Nicolas Georgerot à Furiani pour RTL. Merci Nicolas.
Plus 64% le boom des installations de panneaux solaires. C'est un chiffre qu'RTL vous révèle ce soir. Illustration des parades trouvées par les Français face à la hausse des prix de l'énergie. Avec la guerre en Ukraine, gaz, électricité, les prix flambent et les particuliers s'organisent. Bonsoir Marie Guerrier.
Bonsoir.
C'est vous qui avez enquêté auprès notamment des fabricants de panneaux solaires qui croulent désormais sous les commandes.
Oui, alors Enedis, le gestionnaire du réseau d'électricité, compte à ce jour 164 000 clients raccordés en autoconsommation contre 100 000 il y a un an, plus 64%. Ce sont des clients qui ont fait installer des panneaux solaires pour produire eux-mêmes tout ou partie de leur électricité. Et ça va continuer. Nicolas Fèvre est responsable commercial chez Voltec Solar, fabricant français de panneaux solaires.
Nos carnets de commandes sont pleins avec une visibilité à 4-5 mois.
Il va donc falloir investir dans de nouvelles machines et embaucher dans l'usine installée en Alsace.
Pour doubler la capacité de production, passer de 500 000 panneaux à l'année à 1 million. Alors aujourd'hui, on est un peu plus de 200 personnes sur le site de Voltec et on est amené à doubler à peu près ses effectifs avec des régleurs, des ingénieurs, des manutentionnaires aussi.
Des perspectives d'avenir dans la vallée de la Bruche.
Marie, c'est la fin des années de disette pour cette filière.
Oui, et dans l'Ain, par exemple, à Jujurieux, l'usine Dualson s'est déjà, elle, pourvue d'une nouvelle ligne de production. Jérôme Moutarde dirige l'entreprise.
Déjà entre 2020 et 2021, on a triplé notre chiffre d'affaires. Et depuis le début de l'année, on va atteindre, on va dire fin mai, notre niveau de chiffre d'affaires 2021. C'est spectaculaire.
Le panneau solaire Dualson permet de produire de l'électricité, mais aussi de l'eau chaude.
Le panneau hybride que nous avons développé répond parfaitement à ce besoin de réduire la facture d'énergie globale. Il me semble qu'on est sur une lancée qui aura du mal à s'arrêter maintenant.
Alors les fabricants de panneaux solaires travaillent avec des installateurs, partenaires. Il en faudra aussi davantage en former de nouveau pour répondre à la demande.
Enquête RTL signée Marie Garrier.
Et sur l'énergie, justement, l'Europe discute de nouvelles sanctions contre la Russie. Embargo progressif des importations de produits pétroliers pour lequel Kiev fait pression, qualifiant les pays qui s'y opposeraient de complices de crimes de guerre.
L'Ukraine, où le maire de Mariupol évoque toujours de violents combats sur le site industriel d'Azovstal. Le Kremlin, de son côté, dément tout assaut sur la Syrie où sont retranchés les ultimes résistants.
Le plus dur est-il fait ou reste-t-il encore à faire? En tout cas, insoumis et socialistes se sont mis d'accord. Cette fois, c'est fait. Pour se présenter unis aux législatives, les instances du PS vont se pencher sur l'accord ce soir et demain. C'est là que ça pourrait coincer.
Alors, on suivra ça, évidemment, mais pour le moment, c'est le contenu du contrat de mariage qui nous intéresse. Thomas Després, d'abord sur l'Europe, compromis semble-t-il quelque peu au chausse-pied.
Oui, et pas sûr que le pied soit complètement rentré dans la chaussure d'ailleurs, parce que sur le sujet européen, socialistes et insoumis ne sont pas du tout d'accord et ça fait presque 20 ans que ça dure. Dans son programme présidentiel, la France insoumise prenait la désobéissance à certaines règles européennes, là où le PS explique que l'Europe, ce n'est pas à la carte. Il a donc fallu longuement négocier de longues heures pour arriver à une formulation un peu alambiquée. Les deux parties s'engagent donc, je cite, à la désobéissance pour les uns, ça ce sont les insoumis, ou à déroger de manière transitoire pour les autres, ça ce sont les socialistes, aux règles européennes.
Voilà, tout le monde est content, donc en revanche ça a été beaucoup plus facile et beaucoup plus clair sur un grand nombre d'autres sujets.
Oui, sur la retraite à 60 ans, tout le monde est d'accord, sur le SMIC à 1400 euros aussi, idem sur le rétablissement de l'ISF ou encore la 6ème République, c'est le bébé de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, pour vous prouver qu'il y a vraiment eu des compromis, les socialistes ont même accepté l'abrogation de la loi El Khomri qu'ils avaient eux-mêmes votée.
Explication signée Thomas Després. Prêt pour RTL. Du côté de l'Élysée, on joue la montre. Et sur les mots, en fait, le Conseil des ministres du jour n'était pas le dernier. Jean Castex et son gouvernement sont encore aux commandes pour une dizaine de jours. Et voici l'explication donnée tout à l'heure par le porte-parole Gabriel Attal.
Le calendrier est connu institutionnellement. Il y a l'investiture du président de la République pour son second mandat qui aura lieu ce samedi, conformément à ce qui était annoncé. Et il y a le premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'achève le 13 mai à minuit. Et ce que je peux vous dire, ce que je sais, c'est que le gouvernement Castex ira au bout de ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
Voilà, fin du quinquennat, donc le 13 mai, investiture n'égale pas fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Rendez-vous donc vendredi prochain.
Une pause et dans un instant dans RTL Soir. La comparution immédiate de l'ex-infirmière accusée d'avoir agressé un pompier lors des manifestations du 1er mai. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et la suite du journal à 18h10 dans RTL Soir. Direction à présent le palais de justice de Paris pour la comparution immédiate de l'ex-infirmière accusée d'avoir agressé un pompier. C'était dimanche dernier à Paris lors de la manifestation du 1er mai.
Le palais de justice de Paris où vous êtes pour RTL, Anne Le Hennaff, la suspecte que vous avez aperçue tout à l'heure alors qu'elle a demandé un délai pour préparer sa défense.
Oui, c'est une femme épuisée qui est arrivée dans le box, les cheveux teints en blond tirés en arrière, une veste en jean dont les poches débordent de mouchoirs, elle est en chaussettes. Elle tourne le dos comme elle peut aux très nombreux journalistes qui sont venus assister à cette audience. Les bancs du public sont pleins également. Elle se prend plusieurs fois la tête entre ses mains tremblantes. Cette femme de 38 ans élève seule ses deux enfants de 6 et 10 ans. Elle s'occupe aussi de sa sœur malade. Elle est en CDI. Elle forme les gens à nettoyer des immeubles. Le procureur s'inquiète. Est-ce que vous retournerez en manif? Là, elle crie presque. Ah non, ça c'est sûr à 100%. Je signe tous les documents que vous voulez. Je travaille, je suis en CDI, j'aime mes enfants. Mais le procureur demande tout de même son placement en détention provisoire, c'est-à-dire qu'elle aille attendre son procès en prison. Alors ces deux avocates s'interrogent. Ses enfants, ils iront où si vous la placez en détention provisoire? Et puis tout le monde connaît son visage maintenant. Les deux déplorent le traitement médiatique de cette affaire. Dans le box, la street medic pleure, recroquevillée. Elle sera fixée dans quelques minutes.
Anne Le Hennaff au tribunal de Paris pour RTL. On vous en parlait ici même hier soir dans RTL Soir. Ces habitants de la cité Caliste à Marseille, une des cités les plus pauvres de la ville, obligés de fuir leurs appartements sous la menace de gangs ultra-violents qui règlent leurs comptes à la machette comme Nella.
Ils tapent dans les appartements pour qu'on les ouvre, pour qu'eux se réfugient en fait. Parce que l'autre clan veut les tuer. Donc eux, ils voulaient se réfugier chez nous. Et nous, on est rez-de-chaussée, donc on est les premiers appartements. Donc à partir de là, les petites, elles se sont réveillées en peur, en panique. Les petites tétanisées, crise de panique. Ma fille plus un mot.
Alors, pour avoir parlé aux policiers, l'appartement de Nella a été brûlé par ces squatteurs qui sèment la terreur. Aujourd'hui, les autorités ont promis d'agir, Gauthier Delambugard, mais pour l'heure, ces squatteurs, ils sont toujours là.
Absolument. Sur les 129 logements de cette grande barre d'immeubles, le bâtiment G, 42 sont toujours squattés, nous explique la préfecture, principalement par de jeunes Nigérians sans papier. Les autorités assurent avoir renforcé la sécurité depuis hier pour permettre à la plupart des familles de regagner sereinement leur logement, mais les habitants décrivent toujours ce soir un climat d'insécurité. La police est impuissante, selon Sophia.
Oui, il y a eu la police qui est venue, mais bon, ils ne restent pas H24. Donc, dès qu'ils repartent, ça recommence. Les Nigérians, ils sont là et on sait de quoi ils sont capables et on n'arrive pas, quoi. On n'arrive pas, ça fait trop peur.
Donc là, ce soir, vous allez dormir où ?
Chez des amis. Pourquoi c'est nous qu'on déloge, finalement ? C'est le monde à l'envers.
Certains ont décidé de dormir chez eux ce soir. D'autres, vous l'avez entendu, vont donc aller chez des amis. 5 familles, soit une trentaine de personnes, vont être relogées temporairement dans des appart-hôtels. La préfecture et la préfecture de police des Bouches-du-Rhône disent suivre attentivement ce dossier. Des enquêtes judiciaires sont en cours. Suite aux violences du week-end dernier, l'objectif à terme est de démolir entièrement ce bâtiment G dans le cadre de la politique de rénovation urbaine.
Gauthier Delambugard pour RTL.
7 buts inscrits à l'aller après une demi-finale totalement folle en Ligue des Champions. Manchester City et le Real Madrid se retrouvent ce soir dans la capitale espagnole. Bonsoir Mathias Valton.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de RTL à Madrid, davantage au club anglais, mais les supporters madrilènes comptent notamment sur Karim Benzema pour leur sauver la mise.
Oui, Karim Benzema est une nouvelle fois attendu comme le sauveur ce soir. Les supporters du Real Madrid vont même déployer à l'entrée des joueurs un tifo géant à son effigie, c'est dire s'ils comptent sur lui. Et un autre où il sera inscrit leur vœu le plus cher, une autre nuit magique du roi d'Europe. C'est ce que l'attaquant français avait d'ailleurs promis à l'issue du match aller où le Real s'est incliné 4-3. Donc après avoir renversé le PSG et Chelsea au tour précédent, les supporters madrilènes rêvent donc d'une nouvelle remontada dans leur stade de Santiago Bernabéu et comptent, comme toujours, sur Benzema pour faire tomber Manchester City. City est accédé à la finale. Le Français vient d'inscrire 9 buts sur les 4 derniers matchs de Ligue des Champions et est dans la forme de sa vie. Et ça tombe bien car le Real part avec un handicap d'un but et n'a pas d'autre choix que de gagner ce soir pour espérer au minimum arracher la prolongation. On espère en tout cas que cette demi-finale retour sera à la hauteur de l'incroyable match aller avec une nouvelle pluie de buts et des frissons qui nous parcourent le corps pendant 90 minutes. Si c'est même un peu plus long, on ne boudera pas non plus notre plaisir.
Ah non. Clairement, on se couchera
prendra.
Tard.
Merci Mathias Valton, Real City, coup d'envoi 21h pour rejoindre Liverpool en finale.
Effectivement, merci beaucoup Marion et merci Mathias. Le temps pour demain, Peggy, on vous écoute.
Alors un ciel bien chargé demain matin mais sec sur le nord-ouest, des Pyrénées aux frontières de l'Est, encore des averses. Le littoral du Languedoc-Roussillon, lui, restera ensoleillé, ça va durer toute la journée. Quelques éclaircies en matinée entre le Poitou en montant vers les Ardennes et dans l'après-midi, encore des averses entre les Pyrénées et la Lorraine, des averses qui seront bien marquées entre l'Alsace, les Alpes et la Corse, parfois orageuses, et on aura aussi pas mal de neige sur les Alpes du Nord, dès 2000 mètres sur l'ouest, entre l'Aquitaine, la Bretagne et les Hauts-de-France, là le ciel sera lumineux, sec, et plus on ira vers les côtes, plus le soleil sera généreux. Et les températures, les minimales de 5 à 10 au nord, jusqu'à 15 au sud, et les maximales de 14 à 21 en général, et jusqu'à 23 dans le sud.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et ce soir, la brigade RTL s'interroge. Est-ce que les voitures électriques polluent autant que les voitures normales ? Un rapport de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de l'énergie, sème le trouble. On va donc poser 3 questions à la brigade RTL. Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Voitures électriques, voitures normales, Visiblement, les deux rejettent quasiment autant de particules fines.
Oui, car les particules fines, elles proviennent surtout de l'usure des pneus et des freins. Et une voiture électrique, ça a des pneus et ça freine. Alors, quand, avant, les voitures essence ou diesel émettaient des particules en plus par leur peau d'échappement, mais les constructeurs ont fait des gros progrès et les modèles récents ont des filtres. Donc, les électriques n'ont plus vraiment d'avantage, en tout cas sur ce polluant.
Mais le rapport dit aussi qu'il y a en quelque sorte les bonnes voitures électriques et les mauvaises voitures électriques.
Oui, car plus une voiture est lourde, plus il lui faut des grands pneus. Donc, ça fait plus d'émissions de particules. Une grosse Tesla qui fait 1800 kg, elle va émettre plus qu'une petite Twingo à essence 30% plus légère. Alors qu'une petite voiture électrique Zoé, Fiat 500, en revanche, elle va émettre moins qu'un gros SUV diesel. C'est vraiment une question de taille de voiture.
Alors, autre bémol à la conclusion de ce rapport, une voiture normale rejette aussi d'autres particules qui sont nocives pour la santé.
Voilà, hein, la voiture électrique, même si ce n'est pas la solution miracle, il y a aussi le problème des batteries, elle pollue quand même beaucoup moins. Elle n'a pas de peau d'échappement, donc elle n'émet pas de dioxyde d'azote ni de composés volatiles qui nous encrassent les poumons. Son bilan est aussi bien meilleur pour le climat. L'ADEME a calculé sur toute sa durée de vie, hein, fabrication et utilisation, l'électrique émet deux fois moins de carbone qu'une voiture normale. Et puis, dernier avantage, l'électrique, ça ne fait pas de bruit. Et ça aussi, c'est une vraie pollution.
Effectivement, les explications de la Brigade RTL, merci beaucoup Virginie Guérin. Courte pause et ensuite RTL se souvient. Il y a 30 ans, une tribune du stade de Furiani s'effondrait. Match en hommage aux victimes du drame en ce moment même à Bastia. Parmi ces victimes, il y avait Jean-Baptiste Dumas, journaliste ici à RTL. Son fils, Bastien, sera avec nous juste après ça, tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, vous écoutez RTL et ce soir RTL se souvient. C'était il y a 30 ans, la pire catastrophe de l'histoire du football français. 5 mai 1992, une tribune du stade de Furiani s'effondre avant une demi-finale de Coupe de France Bastia-Marseille. Bernard Cazoni était alors joueur de l'OM.
Je pense que sur le continent, ceux qui ne l'ont pas vécu se sentent moins concernés, parce qu'ils sont loin de tout ça. Là, tu le vis au quotidien pratiquement. Il faut l'avoir vécu ou être ici pour le vivre aussi. Moi, j'avais donné mon survêtement à une jeune fille de 17 ans à l'époque, parce qu'elle était blessée. Et quand je suis revenu entraîner Bastia, elle m'a téléphoné, je la revois assez souvent. Et elle voulait me rendre le survêtement, donc je lui ai laissé. Je la vois tout le temps, quoi. Donc, chaque fois que je la vois, je dis, tiens, Cathy, voilà. Il y a 30 ans, j'avais fait le secouriste, on était là pour aider les gens. C'est des moments qui reviennent chaque fois.
Le témoignage très fort de Bernard Cazoni qui se souvient avec Nicolas Georgerot aujourd'hui sur RTL. Le bilan de ce drame, 18 morts officiellement, 2357 blessés. Et parmi ces victimes, Jean-Baptiste Dumas, journaliste ici à RTL, est décédé quelques mois après le drame. Son fils ce soir est notre invité. Bonsoir Bastien Dumas Paoli.
Bonsoir Julien.
Alors vous êtes à Furiani. Ce soir où se tient donc un match du souvenir entre ancienne gloire des deux clubs. 30 ans après, Bastien, on imagine que c'est un moment très émouvant de se retrouver avec les autres familles, avec les joueurs aussi qui étaient dans le couloir du stade ce jour-là, tous les témoins quelque part de ce drame.
Oui, c'est très très émouvant. Il y a l'équipe du Sporting Club de Bastia 1992 qui est quasiment au complète. Il y a des joueurs également de l'OM 1992 et beaucoup de victimes et beaucoup de familles de victimes. Il y a quelques instants Hervé Béroux, correspondant à RTL au moment de la catastrophe, qui s'est présenté devant la tribune Nord et devant la stèle. Il n'était pas revenu depuis 30 ans et c'est un moment très très émouvant.
Oui, Hervé qui était avec votre papa ce jour-là, qui a été ensuite directeur de la rédaction de RTL. Hervé, et on pense à lui aussi ce soir. On imagine que vous, Bastien, vous pensez à votre papa devant ce stade ce soir. Vous aviez 3 ans seulement au moment de la catastrophe.
Oui, j'avais 3 ans, ma soeur 3 mois. Oui, je pense à mon père, mais... Je prends mon rôle de vice-président du collectif des victimes de la catastrophe de Furiani très à cœur et je pense sans arrêt aux 19 victimes et à tous les blessés. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui sont meurtries dans leur chair, des personnes en fauteuil roulant, des personnes qui sont hospitalisées. C'est vrai que cette catastrophe, elle a touché toute la Corse, elle a touché le continent, elle a touché Marseille. C'est une catastrophe nationale, hein. Elle a été reconnue comme telle en 2015 par le ministre des Sports Thierry Braillard. Aujourd'hui c'est un moment très émouvant.
Vous l'avez dit, vous êtes vice-président de ce collectif et vous avez obtenu gain de cause en octobre dernier. Après 30 ans de combat, une loi a été adoptée, terminée, plus aucun match ne sera joué le 5 mai. Est-ce que cette victoire, elle a permis de franchir une étape du deuil, de la douleur? Est-ce que vous vous sentez tous plus apaisés aujourd'hui?
Apaisé d'une certaine manière, oui. Après, faire le deuil, c'est une expression que j'aime pas beaucoup parce que je pense qu'on le fait réellement jamais quand on perd un proche. Mais effectivement, déjà, ne serait-ce que ce jour-là, ce jour ne soit plus fêté, qu'on ne fasse plus la fête un 5 mai. Hein, ça avait été le cas en 2010. Moi qui suis supporter de l'Olympique de Marseille.
Oui, Marseille 2010, avait été champion un 5 mai. Ouais.
Et Didier Deschamps, d'ailleurs, l'entraîneur de l'époque, c'était les premiers mots qu'il avait eus à la suite de cette rencontre. Et la première réaction à chaud qu'il avait eue, c'était de dire qu'on n'aurait jamais dû jouer cette rencontre-là ce jour-là pour respecter la mémoire des victimes et les familles.
Est-ce que vous avez eu l'impression, pendant toutes ces années de combat, que quelque part, une fois le procès terminé, la corruption, l'amateurisme avéré, que finalement, on avait oublié, quelque part, presque nié l'importance du drame de Furiani au sein des instances du foot ou au sein de la classe politique ?
Oublié, oui, ou une volonté de l'oublier, c'est-à-dire que nous on s'est battu alors qu'on n'aurait jamais dû se battre hein, pour une cause qui est quand même normale, c'est-à-dire qu'on se souvienne de cette catastrophe. Nous on se bat pas pour de la compassion, on s'est battu toutes ces années pour que une telle catastrophe ne se reproduise plus. Et je crois qu'aujourd'hui, ce combat-là, il est gagné, puisque on témoigne de partout, les jeunes sont sensibilisés. Nous, on a créé aussi le collectif via le fonds d'action de la Fédération Française de Foot, des actions de sensibilisation auprès des plus jeunes, dans les centres de formation, chez les jeunes footballeurs qui seront amenés peut-être à être footballeurs professionnels. Donc, c'est très important pour nous de parler de cette catastrophe pour qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus. Elle est arrivée à cause du foot fric, foot business. Elle peut arriver encore et c'est important que chaque organisateur d'une manifestation sportive ou culturelle prenne conscience qu'on ne peut pas jouer avec la vie des gens. Voilà.
Alors, malgré la loi qui a été adoptée au Sénat en octobre dernier, il y aura demain un match de foot un 5 mai, une demi-finale de Coupe d'Europe parce que l'Europe n'est pas concernée par les textes. Marseille, Feyenoord, match de l'OM donc qui plus est. Vous regrettez la tenue de ce match un 5 mai ?
Ah oui, moi je, en tant que Marseillais, supporter de l'OM, et je suis pas le seul, hein, il y en a beaucoup, on est un peu dévastés que ce match se tienne ce jour-là. Mais bon, l'OM a de sa propre initiative demandé à ce qu'une minute de silence soit faite avant la rencontre, qu'un texte soit lu avant la rencontre, que les joueurs portent un brassard noir pendant la rencontre. Donc ça prouve aussi que nos actions ne sont pas restées vaines et ce devoir de mémoire il est super important et que même si c'est une compétition internationale, même si la loi ne s'applique pas pour ce genre de match-là, on va faire une belle commémoration, ce qui n'avait pas été le cas forcément avant, donc aujourd'hui, c'est chose faite. Et quelque part, ça nous apaise un peu sur ce point-là.
Est-ce que vous arriverez à regarder le match ? Vous l'abonnez au Stade Vélodrome demain ? Est-ce que vous serez au stade ?
Non, je ne serai pas au stade parce que je sortirai de la messe pour me rendre le 30e anniversaire de la catastrophe de Furiani. Il me sera impossible de regarder cette rencontre. J'ai des amis même qui m'envoient des messages. Mais Bastien, est-ce qu'on peut aller voir le match ? Je leur dis, mais bien sûr, allez voir le match. Mais voilà, moi, ce ne sera pas possible de le voir. Et puis, il y a des victimes marseillaises dont je sais que ce ne sera pas possible de le voir non plus.
Alors, vous êtes en Corse ce soir. Là-bas, sans doute plus qu'à Marseille, Bastien, on a peut-être du mal à s'en rendre compte. Mais le drame là-bas, il est vraiment ancré dans les chairs parce qu'il a meurtri des villages, il a meurtri des familles. Il y avait 20 000 personnes dans le stade ce jour-là. C'était un dixième de la population de l'île à l'époque.
Exactement, toute l'île a été touchée. Il n'y a pas un village en Corse qui n'a pas été touché par la catastrophe de Furiani. Donc ici, le devoir de mémoire il est très très important, comme le disait Bernard Casoni tout à l'heure. C'est quelque chose, en plus ici, il y a une relation à la mort qui est très très particulière. Donc ici, vraiment, il y a un énorme respect de cette catastrophe et on fait tout pour même apprendre à la nouvelle génération ce qui s'est passé ce jour-là, le 5 mai 1992, à Bastia.
Merci Bastien Dumas-Paoli d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Vous, le fils de Jean-Baptiste, notre journaliste RTL, décédé après ce drame de Furiani. On a une pensée pour votre famille, pour vos grands-parents aussi ce soir, Bastien, les parents de Jean-Baptiste, parce qu'on pense fort à eux et on imagine qu'ils nous écoutent.
Je pense très très fort à eux aussi et je les embrasse très fort.
Merci Bastien d'avoir été ce soir notre invité sur RTL.
Merci Julien, merci beaucoup.
Retrouvez ce témoignage sur l'appli RTL.
Et RTL Soir revient dans un instant. Il y aura vos dessous de l'actu, les dessous de l'union à gauche. Vous allez l'entendre, ça pourrait bien coincer dans certaines circonscriptions. Et puis laissez-vous tenter dernière. Comment parler de la guerre à nos enfants ? Sélection judicieuse de Livre Jeunesse. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
Vous écoutez RTL, 18h31.
RTL Soir, avec Julien Sellier.
Et comme tous les soirs à cette heure-ci, Marion Calais vous rappelle les trois grands titres de l'actu si vous nous rejoignez.
La comparution immédiate de l'ex-infirmière accusée d'avoir agressé un pompier lors de la manifestation du 1er mai à Paris. Audience renvoyée au 1er juin. On l'apprend à l'instant. La prévenue avait demandé un délai pour préparer sa défense. D'ici là, elle est placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de manifester ou de porter une arme. Un sixième volet de sanctions contre la Russie. Il sera discuté encore demain par les 27 pays européens. Il prévoit notamment de cibler de nouvelles personnalités dont le chef de l'église orthodoxe russe. Plus de 9 millions de dollars record pulvérisés pour un maillot sportif de collection, en l'occurrence celui porté par Maradona lors du quart de finale de la Coupe du Monde 86 contre l'Angleterre, match de la fameuse main de Dieu de l'Argentin.
Merci Marion. Le temps pour demain, Peggy.
Encore bien mitigé demain, Julien, avec beaucoup de nuages sur l'ensemble du pays le matin, plus d'éclaircies entre le Poitou et les Ardennes et toujours des averses du sud-ouest au nord-est, à l'exception de la côte du Golfe du Lion où là il fera beau toute la journée et dans l'après-midi, les éclaircies seront plus larges sur la moitié ouest du pays avec encore des averses des Pyrénées aux frontières de l'est et sur le nord-est et même de la neige sur les Alpes du Nord. Les températures, elles seront en baisse sur l'est de 14 à 19 degrés jusqu'à 21 ailleurs et même 23 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous ce soir de l'union de la gauche. Après les écolos, après les communistes, ce sont les socialistes qui ont topé aujourd'hui avec les insoumis. Alors large union populaire, donc nouvelle union populaire, c'est le terme officiel. Objectif affiché, gagner les législatives des 12 et 19 juin. Mais cette union ne se fera peut-être pas sans difficulté sur le terrain. Bonsoir Thomas Després.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Au PS, les instances doivent encore valider le texte et ça chauffe. Certains candidats refusent l'accord, refusent de laisser leur place.
Oui, si tous ceux qu'ils disent qu'ils vont voter contre le font vraiment, alors ça va se jouer à presque rien. Voilà l'état d'esprit d'un des cadres du PS ce soir. Parce que pour beaucoup, cette alliance entre la France insoumise et le Parti socialiste, c'est un petit peu le mariage de la carpe et du lapin. Les socialistes ont perdu leur boussole, a dit hier Bernard Cazeneuve, qui annonce ce soir qu'il quitte le Parti socialiste. Et puis, vous l'avez dit, il y a les hommes, les femmes, ces anciens candidats dont l'investiture a été sacrifiée sur l'autel de l'union de la gauche. Pour vous donner un exemple, rien qu'à Paris, il n'y aura finalement que deux candidats socialistes. Et ce soir, le bureau fédéral de la capitale qui s'est déjà prononcé contre cet accord.
Alors, ça coince aussi parfois chez les insoumis ou les communistes. Hein.
Oui, chez les communistes, on peut citer par exemple l'exemple de la commune de Vénissieux, à côté de Lyon, où Madame le maire, Michel Picard, refuse de se retirer au profit du candidat de la France insoumise, Taha Bouafs, au prétexte, je cite, que c'est un parachuté. Et plus surprenant, il y a aussi des insoumis mécontents. Oui, écoutez, Pierre, c'est un militant insoumis de Mulhouse. Il a fait la route toute la nuit dernière pour venir à Paris et parler à Jean-Luc Mélenchon. Dans sa circonscription, ce sera finalement un candidat écologiste qui sera investi et ça ne passe pas du tout.
C'est quelque chose qui est de l'ordre de la trahison. On a fait le boulot et à la fin, le casting impose un appareil politique. C'est-à-dire qu'en fait, LFI privilégie des têtes de liste qui ne sont pas représentatives de la population. C'est pas possible.
Pierre qui, pour la peine, jure qu'il ne fera pas campagne pour le candidat écolo.
Alors, en revanche, Thomas, il y a aussi, évidemment, et c'est sans doute la majorité des cas, des circonscriptions où tout se passe bien et où les différentes forces de gauche commencent déjà à travailler ensemble.
Oui, un vent d'espoir s'est levé, se réjouit Jamel Arouche. Il était candidat insoumis à Villejuif. Il l'a écrit sur Twitter. Il se retire au profit de ses camarades écologistes qu'il soutiendra sur le terrain. Et même satisfaction en Seine-et-Marne. Cécile Carisso tweet ce soir qu'elle se retire sans état d'âme au profit d'une union tant espérée. Vous voyez, c'est pas la soupe à la grimace pour tout le monde.
Les dessous de l'union de la gauche avec Thomas Després pour RTL.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h35.
Laissez-vous tenter dernière.
Et laissez-vous tenter dernière maintenant, comme chaque soir, les bonnes idées de notre service culture. Et ce soir, on va tenter de répondre à cette question qui taraude sans doute les parents, les grands-parents depuis des semaines. Comment parler de la guerre à nos enfants ? Bonsoir Laurent Marsic.
Bonsoir.
Vous nous avez préparé des coups de cœur jeunesse, une sélection de livres qui résonnent avec l'actualité, qui fait écho à la guerre en Ukraine.
Oui, par exemple, Unité de lieu avec ce premier roman, premier tome d'une trilogie baptisée Mal d'horreur. C'est aussi le premier roman de Philippe Le Chermeyer, à qui on doit de magnifiques albums illustrés. Nous sommes un peu avant 1914, dans une Europe bouleversée, où les empires vont s'effondrer comme des châteaux de cartes. C'est une histoire d'enfants pour les enfants. Ils sont cinq, dont Ania, violoniste prodige, et Piotr, un jeune paysan qui a un don singulier puisqu'il communique avec les insectes. L'action se déroule entre Kiev en Ukraine, Vienne, en Autriche et les plaines de Sibérie. C'est pour ça que ça a une résonance avec l'actualité. Il y a aussi une légende mystérieuse qui lie les cinq enfants lancés dans une course folle et surtout un homme cruel et mystérieux, le grand Koft, qui les poursuit. Il y a une vraie poésie dans ce livre. J'aime beaucoup le style efficace et simple, très poétique de Philippe Le Charmeilleur. Mal d'aurore, les enfants de la légende, c'est publié chez Flammarion Jeunesse.
Alors, autre livre dont l'histoire là fait vraiment écho extrêmement directement à la guerre en Ukraine. La guerre qui a changé Rondo.
Alors, ce livre-là est réédité par Rue du Monde. On doit cette histoire à un couple d'artistes ukrainiens. Le livre nous plonge dans la guerre du Donbass, la première, si je puis dire. Rondo raconte les auteurs, c'était une ville unique, l'air y était clair, comme si le plus fin des fils de lumière l'avait tissé. Il y a trois petits personnages, Danko, Fabian et Zirka, et leur destin bascule le jour où la guerre frappe aux portes de la ville. Ils vont bien tenter de parlementer avec elle, mais elle ne veut rien entendre, la guerre est sourde, elle est violente. Il faut toujours garder espoir, et ce livre publié une première fois en 2015, republié aujourd'hui, est un livre plein d'espoir, La guerre qui a changé Rondo, aux éditions Rue du Monde.
Et on a bien besoin d'espoir dans cette partie du monde en ce moment. Enfin, une belle histoire pour grandir.
Dans le podcast Lis-moi une histoire, en partenariat avec Albin Michel Jeunesse, avec Le Conte du Poisson, dans Conte pour grandir de l'intérieur, livre de Jacques Salomé et Justine Brax, l'histoire d'un petit poisson mal aimé. Et une super idée, ça va aider les belligérants là-bas entre l'Ukraine et la Russie. Une idée pour apprendre à gérer deux émotions qui vont souvent de pair, la colère et la tristesse.
Des fois, on voit comme ça la mer toute noire, pas bleue du tout, ni verte, ni heureuse, toute noire. Eh bien, je vous le dis, c'est à cause de la tristesse des petits enfants poissons.
Voilà, la suite est à retrouver dans l'application RTL et vos plateformes favorites. Lis-moi une histoire.
Allez, courez sur l'appli RTL et courez donc bien entendu aussi en librairie. Mal d'aurore, les enfants de la légende et la guerre qui a changé Rondo. Deux livres qui font écho à l'actualité pour vos plus petits ce soir. Des bonnes idées, signé Laurent Marsic. Merci Laurent.
Laissez-vous tenter. Dernière.
Et dans un instant, on va défaire le monde dans RTL Soir. Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier, le trio arrive en studio. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
On va défaire avec vous Matignon. Déjà deux refus pour le poste de Premier ministre. Alors Emmanuel Macron cherche, mais va-t-il trouver ? Il faut dire que ce n'est pas un métier de tout repos. Et même Jean-Pierre Raffarin, un ancien des lieux, qui nous le confirme. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL. C'est demain dès 9h sur RTL.